Nous voici en cette huitième rencontre du catéchisme pour adultes. Aujourd'hui, nous allons parler de la création de l'homme, de la création de la femme et de cette complémentarité. La semaine dernière, nous avions vu que l'homme se trouve dans l'univers. Dieu n'a pas créé l'homme indépendamment de l'univers dans lequel il est fait pour vivre. C'est ce que le premier récit de création nous rapporte. Avant qu'il n'y ait l'homme, pour qu'il y ait même l'homme, eh bien, il faut qu'il y ait le monde minéral, végétal, le monde animal, qu'il y ait de l'air pour qu'il respire, qu'il y ait de l'eau, puisqu'il va en avoir besoin pour vivre, de telle sorte que saint Thomas d'Aquin nous disait bien que nous venons de Dieu et que nous retournons à Dieu, qu'il y a une fin qui est poursuivie dans tout l'univers entier. Cette fin, c'est le bonheur, vivre et témoigner de ce bien que Dieu communique à sa création, que l'homme, lui, est appelé à une autre finalité, qui est celle de la vie éternelle, de la vision de Dieu. Nous avons développé tout ça, ce que nous avons appelé les semaines précédentes la béatitude, mais que Dieu est dans toute sa création. C'est pas parce que tout est créé du point de vue des choses matérielles pour l'homme que Dieu se désintéresserait de ce qu'il a créé. Dieu se donne complètement dans sa création, je vous rappelle. Il est dans la nature de l'amour de se donner, il est dans la nature du bien de se communiquer, et cette conjugaison de l'amour et du bien, c'est ce que nous appelons la bonté, et saint Thomas de rappeler souvent que la création, c'est cette bienveillance de Dieu qui est donnée, cette bonté de Dieu, ce qu'on retrouve et qui rythme le récit de création, et Dieu vit que cela a été bon. Et lors de la création de l'homme et de la femme, et Dieu vit que cela était très bon. On voit déjà qu'il y a cette ordonnance. Et nous avons justement ordonné toute cette œuvre de création la semaine dernière. Puisque tout est créé pour l'homme, il y a un ordre. Nous avions vu ça de façon un peu théorique. Il y a des choses moins nobles qui sont au service de choses qui sont plus nobles. Voilà. Je voulais vous parler des dons préternaturels. C'est-à-dire de ces dons que Dieu va donner à Adam et Ève quand ils sont dans le jardin. Mais je me suis dit, à l'époque à laquelle nous vivons, où on ne sait plus véritablement ce qu'est l'homme ni ce qu'est la femme, et me souvenant que parmi vous, des gens avaient posé la question sur cette complémentarité de l'homme et de la femme, je me suis dit, bien, on va s'arrêter à l'école de saint Thomas, c'est-à-dire à l'école de la tradition de l'Église, pour voir justement comment les pères et saint Thomas rendent compte de la création d'Adam, puis d'Ève. Pour cela, je vais vous lire d'abord un petit article de la question 91. Aujourd'hui, on va travailler la question 92 sur la production de la femme, comme est le titre, mais voilà, je vous lis déjà quelques petits éléments. « Toutes les réalités de la nature, nous dit saint Thomas, ont été produites par la pensée créatrice de Dieu. » C'est-à-dire qu'avant de créer les choses, Dieu ne crée pas par hasard, il a une intention avant de créer. Donc, « toutes les réalités de la nature ont été produites » par la pensée créatrice de Dieu, aussi sont-elles en quelque sorte les œuvres de cet artiste qu'est Dieu. Vous savez, le mot artiste est intéressant, c'est le mot artiste, le mot artisan. Et on voit justement que dans cette création de Dieu, il y a effectivement un côté artisan, au sens où voilà, Dieu va être à l'origine de la matière, bien que cela lui est complètement étranger, il n'est que spirituel. Et puis, il est également artiste au sens où il donne dans cette création une harmonie, la communication de son amour et du bien, c'est ce qu'on appelle la bonté. Et on a vu la semaine dernière que tout, absolument toute la création, a un point de vue commun, le bien commun, dans sa notion la plus générale, c'est Dieu qui est le principe unificateur de tous les êtres. Dieu crée en communiquant son amour et sa bonté. Et tout le monde est profondément marqué par cela. Donc là, toutes les réalités de la nature ont été produites par la pensée créatrice de Dieu. Aussi sont-elles en quelque sorte les œuvres de cet artiste qu'est Dieu. Je trouvais que c'était intéressant de commencer par là pour concevoir aussi cette idée d'artiste en Dieu. Or, tout artiste, nous dit saint Thomas, vise à introduire dans son œuvre la disposition la meilleure. Non pas dans l'absolu, mais par rapport à la fin. Je continue à lire parce que ça va s'éclairer dans ce que veut faire comprendre saint Thomas. Et si une telle disposition comporte quelques défauts, l'artisan ne s'en soucie pas. Ainsi, l'artisan qui fait une scie destinée à couper, il le fait avec du fer pour qu'elle soit apte à couper. Et il ne cherche pas à la faire avec du verre, qui est une matière plus belle, car cette beauté empêcherait d'obtenir la fin voulue. » Conclusion de saint Thomas. C'est ainsi que Dieu a donné à chaque réalité de la nature la disposition la meilleure, non pas dans l'absolu, mais dans la relation à sa fin propre. C'est vraiment ce que l'on a vu la semaine dernière. C'est-à-dire, c'était là une des questions qu'on a déjà abordées, Dieu aurait-il pu faire le monde plus parfait ? Oui, car rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas fait un monde plus parfait ? Tout d'abord parce qu'il veut accorder aux créatures leur dignité. Donc il va falloir se perfectionner. C'est comme ça aussi qu'on se saisit de la dignité des créatures. Mais là, ce que nous dit bien saint Thomas, c'est qu'il ne faut pas considérer les réalités de la nature indépendamment les uns des autres. Je vous disais, le petit chêne la semaine dernière, le gland, c'est de fait, on dit en puissance, dans le gland, il y a tout le chêne. Mais en même temps, il faut beaucoup de choses pour que ce gland puisse vraiment porter du fruit. Il a besoin de terre, il a besoin d'eau, il a besoin d'une certaine température, il a besoin d'un rapport à la lumière. Et même tout son être, après, va être au service d'autre chose. Il va participer au cycle de l'eau, il va participer à l'oxygénation, il va servir de résidence pour les oiseaux. Il y a des utilités à tout cela. Mais donc, il ne faut pas regarder la perfection de telle et telle chose, il faut regarder surtout déjà la perfection de l'ensemble. C'est déjà ce que nous dit ici saint Thomas. Au sujet de la création de l'homme, il y a une difficulté. Une difficulté qui tient dans ce que rapportent les Écritures et dont saint Thomas va bien évidemment nous parler. Quelle est-elle ? On a coutume de dire « Dieu a tout créé à partir de rien ». Et cela est vrai. Dieu n'a pas eu quelque chose qui aurait préexisté pour façonner le monde minéral ou végétal, sinon il ne serait pas créateur. Donc il crée tout à partir de rien. Grand problème. Pourquoi donc Dieu n'a-t-il pas créé l'homme à partir de rien ? Dieu prend le limon de la terre pour façonner l'homme. Alors ça fait partie, si vous voulez, d'abord des objections. Saint Thomas fonctionne toujours ainsi. Avant, il va poser une question, puis il va écouter très sérieusement les objections de ses contradicteurs. Il va y avoir ensuite une autorité, celle de l'Écriture ou de quelques docteurs vraiment sûrs de l'Église, et ensuite il va se mettre à répondre, et après sa réponse, il répondra méticuleusement à chacune des objections. C'est ainsi que fonctionne la pensée médiévale, c'est le commencement de l'université, c'est le rapport du maître et des élèves. On ne sera pas encore avec Descartes, qui lui n'est plus un professeur au contact d'élèves. Descartes, lui, il est transporté dans son poêle, qui est une pièce très chauffée, dans laquelle il travaille seul. Et on dira, on comprend aussi la solitude de Descartes, mais elle se retrouve aussi dans sa philosophie. De quoi est-ce que Descartes est sûr qu'il est en train de penser ? C'est la seule chose. Saint Thomas, lui, il a des élèves en face de lui. Il y a des objections à prendre compte, donc du coup, il y a quelque chose ainsi. Saint Augustin, c'est pareil, c'était peut-être pas le maître de l'université avec des élèves, mais Saint Augustin prêche à des communautés chrétiennes. C'est un pasteur. Vous voyez, après aussi, et tout ça, ça se ressent dans l'écoute attentive des objections, et puis dans la réponse, en tenant compte aussi et de l'autorité des Écritures, de l'autorité des pères de l'Église. Le problème du limon, c'est ça. Pourquoi Dieu, si c'est en plus l'homme et le sommet de la création, pourquoi Dieu a-t-il jugé nécessaire de prendre de la terre pour façonner l'homme ? Et de même, la même question se posera, mais pourquoi donc Dieu a-t-il voulu prendre un morceau de côte d'Adam pour façonner la femme, alors que toute la création a été faite à partir de rien? Il semble que la création de l'homme et de la femme manque de noblesse. Et comme on nous a toujours dit que les choses les moins nobles sont au service de plus nobles, ça remettrait presque en cause la prééminence de l'homme dans ce monde matériel et créé, dans tout cet univers dont nous avons parlé la semaine dernière. Et pourtant, c'est bien ce que dit la Genèse, chapitre 2, verset 7, « Dieu modela l'homme avec le limon de la terre. » Alors saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, il hérite, si vous voulez, d'une façon dont on se représente le monde avec les quatre éléments. Les quatre éléments, c'est d'abord les éléments inférieurs, la terre et l'eau, et le limon, parce que le limon est quand même humide, donc il y a déjà la terre et l'eau. Alors déjà, on se dit, mais en plus, pour créer l'homme qui est supérieur, on a pris en plus les réalités les plus inférieures, la terre et l'eau, parce que quelles sont les deux autres réalités plus subtiles ? L'air et le feu. Ah ben oui, c'est plus subtil l'air que la terre, qui est vraiment très matérielle. L'air, c'est beaucoup plus subtil. Le feu, de même. Et saint Thomas du coup, est contraint de devoir articuler cela, c'est la façon dont on rend compte de l'univers, hein, à cette époque-là. C'est les quatre éléments. Aujourd'hui, nous avons fait bien des progrès avec notre acuité du regard. On peut voir à la fois les choses extrêmement éloignées avec des télescopes. On peut même se déplacer dans l'espace. Mais on peut aussi avoir une vision du petit. Hein, on peut voir les cellules, etc. Et il faut concevoir aussi ce que, du point de vue de la pensée, cela a changé que de changer d'échelle. C'est tout le problème de Galilée avec sa lunette. C'est qu'après, avec cette grande distance... C'est ça le procès de Galilée, c'est pas la question scientifique, ça c'est toujours le grand poncif du monde d'aujourd'hui. C'est surtout qu'après il a voulu appliquer ses réalités à la lecture des Saintes Écritures. Ça a posé déjà beaucoup plus de problèmes. Je ferme la parenthèse. Donc en tous les cas, saint Thomas nous dit pourquoi il a pris le limon dans la tradition de l'Église, en disant déjà le limon c'est la terre, c'est l'humidité. Mais saint Thomas dit, mais attention, c'est la terre et l'humidité, donc la terre et l'eau, mais c'est aussi, sous un certain rapport, l'air également et le feu, même s'ils sont moins présents. Donc déjà Dieu... Il va façonner Adam à partir du limon, non pas parce qu'il y serait tenu, parce qu'il le veut. Pourquoi ? Mais moi je pense que la réponse, je la dis de façon plus simple que saint Thomas, qui m'a beaucoup habité dans mes méditations cette semaine, pour ne pas oublier ce que nous avons oublié aujourd'hui, que nous sommes comme enracinés dans cette terre. Hein ? L'homme ne peut pas exister sans avoir ses pieds sur terre, sans avoir de l'air dans ses poumons. Ses yeux, on prenait l'exemple la semaine dernière, saint Thomas nous disait, ben, les yeux sont faits pour voir. Oui, mais parce qu'il y a quelque chose à voir, de matériel. Si les choses n'étaient que spirituelles, ben, je ne pourrais pas les voir. Donc vous voyez, de ne pas oublier cette vérité première qu'on tend à oublier aujourd'hui, ben, le monde a été fait pour nous, mais nous sommes faits pour le monde. Hein, et ce monde nous est donné de par Dieu pour nous perfectionner, hein, pour pouvoir retourner à lui. Nous venons de Dieu, nous retournons à lui. Je lis ceci. Oui, non, parce que ça va nous faire rentrer trop loin. Donc déjà, voyez cette réalité-là. Je voudrais attirer notre attention sur un autre point. Aujourd'hui, nous avons scientifiquement les possibilités d'aller sur d'autres planètes, comme l'on appelle. Et qu'est-ce qu'on recherche ? Ce que nous avons autour de nous, mais que nous ne voyons plus avec ce regard émerveillé de l'homme humain, on recherche la vie. Y a-t-il des traces de vie sur Mars ? Est-ce qu'il y a de l'eau ? Est-ce qu'il y a du lot dans sa géologie ? Est-ce qu'il y a dans... C'est ce qu'on recherche. Avec, derrière, peut-être l'idée, mais c'est quand même une idée, je pense, enfin, c'est l'idée qu'il y a derrière, que le monde dans lequel on vit, peu importe, on ne l'appelle plus d'ailleurs la Terre. On l'appelle la planète, vous voyez, pour que déjà il y ait une distanciation, vous voyez, qu'on ne se sente plus trop enraciné. Vous voyez, c'est les problèmes aujourd'hui du 21e siècle, c'est que l'homme ne veut plus être enraciné. Il faut qu'il soit déraciné. Alors il n'y a plus de nation, il n'y a plus de famille, il n'y a plus que le monde. Et puis même ce monde, ça devient une planète parmi tant d'autres. Et puis on va aller chercher la vie ailleurs, sous-entendu, de toute façon cette planète, on l'a pourrie parce qu'on a trop consommé, on va aller chercher ailleurs une nouvelle terre vierge dans laquelle on va reproduire la même chose, ne nous faisons pas d'illusions. Mais vous voyez, quelque chose qui est profondément faux, et c'est, je pense, ce que se tient dans cette réalité, Dieu prend le limon de la terre pour faire l'homme. Non pas parce qu'il ne veut pas le faire à partir de rien, mais pour bien nous rappeler que nous sommes faits pour ce monde-là. Hein, et c'est là où je me dis toujours, quand j'entends moi le mot planète, ça me fait hérisser le poil, comme quand les gens disent j'adore à qui le mieux, le chocolat, le si, j'adore tel truc, tel machin. Ben, il faut avoir un rapport ajusté. Oui, vous riez, vous me connaissez, mais ce sont mes dadas. Mais la planète, c'est pareil. La planète, je me dis, mais c'est profondément faux. Dieu ne nous a pas mis sur n'importe quelle planète, parce qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour que l'homme puisse être en vie. Hein. On pense à l'eau, on pense à l'air, à l'habitat, et à cette intelligence qui va lui permettre non seulement de faire entrer le monde dans son intelligence, mais également après de participer justement à cette œuvre de création. C'est la dignité de créature. Hein. Par notre intelligence, non seulement le monde entre en nous, mais après nous nous façonnons aussi également un monde. Hein. C'est la dignité. Que faudrait-il dire d'autre à ce sujet de cette question de la création de l'homme, pour ensuite que l'on s'attache à la... Oui, donc ça, je l'ai dit, pardon. Ah oui, le second problème qu'affronte saint Thomas est le suivant. Avant même qu'il n'y ait la création de la femme, dans la création de l'homme, on nous dit, donc, il prend Dieu le limon, il façonne l'homme et il donne le souffle de vie. Et saint Thomas de dire, attention, il ne faudrait pas penser que le corps a été créé avant l'âme. Parce que c'est l'inverse. Hein, c'est ça. Si on suit hein, le récit, Hein, il dit, il ne faut pas faire dire au récit ce que le récit ne dit pas, et il ne faut pas transposer non plus nos idées en disant, ben alors du coup, s'il y a d'abord la matière, et après il y a le souffle de vie, ça veut dire l'âme. Pourquoi saint Thomas dit ce n'est pas possible? Parce que la nature humaine, ce n'est pas d'un côté la nature, et puis éventuellement une âme. La nature humaine, c'est d'être un être composé d'une nature et d'une âme. Donc déjà, pourquoi saint Thomas dit ça? Il dit parce que la création de l'âme, si vous voulez, elle est déjà dans l'intention de Dieu. Je vous dis, Dieu n'a pas créé l'univers pour les anges, ça serait profondément inutile. Ils n'ont pas de prise vis-à-vis de la matière, les anges. Ils sont spirituels comme Dieu. Donc du coup, il crée tout le monde matériel, tout cet univers marqué par la bonté de Dieu pour l'homme. Et donc bien sûr, on va assister avec ce limon de la terre à la création du corps de l'homme, mais dans l'intention créatrice de Dieu, c'est pour l'âme. Et l'âme, pour l'âme humaine, est justement cette réalité spirituelle qui est au contact de la matière. Alors, ça, question que vont poser tout un tas de pères, mais pourquoi les anges n'ont pas plutôt créé l'homme? Parce qu'on se dit, c'est quand même Dieu qui crée l'homme, c'est la matière. Donc du coup, il n'y a pas de chose de plus éloignée pour Dieu que la matière qu'il crée. Et saint Augustin, saint Thomas dira, non, l'homme a été créé immédiatement par Dieu, pas par un autre moyen, parce que l'ange, il n'a pas de prise sur la création matérielle des choses. Bien, Dieu, il peut, parce que rien ne lui est impossible. Il a créé la matière, contre les manichéens. La matière est bonne, hein, elle est porteuse de la bonté de Dieu, mais dans cette matière, il le fait tout pour l'homme. Et il y a cette âme, c'est l'âme, hein, qui va donner sa forme au corps et pas l'inverse. Bon, ça c'était le deuxième point sur lequel insiste saint Thomas dans la question 91, qui est importante, hein. Dans l'intention, hein, nous venons d'une âme qui est éternelle. Donc elle n'a pas non plus de prise dans ce temps, dans la matière. Et ce qui en nous va être périssable, c'est le rapport à la matière. Et ce qu'on va appeler la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Voilà, juste pour les quelques éléments. Je reprends les grandes lignes, en tous les cas, pour créer l'homme, pour créer Adam, hein, Dieu a pris le limon de la terre. Je pense, moi, vraiment pour lui rappeler qu'il est enraciné, comme enraciné, c'est une image, hein, comme enraciné dans le monde. Ah oui, et les pères disent aussi quelque chose de très juste. L'homme a été créé par Dieu droit. Alors droit au sens moral des choses, bien sûr, mais Dieu n'a pas pris un animal, hein, n'a pas pris un ou tel animal, prenons un singe comme par hasard, un singe en lui disant, il a donné la laine de vie, paf, c'est devenu un homme. Absolument pas ça que nous disaient les pères. D'abord, ils n'ont pas cette idée, hein, du singe, etc. Mais de dire déjà, il a créé l'homme droit, debout, complet, entier, et surtout, il a créé l'homme pour l'homme, qui est la finalité même de la création. Je trouve assez démoniaque, hein, c'est-à-dire dans la marque vraiment du démon qui veut se détourner de l'œuvre de Dieu, que de nous laisser entendre que finalement, on est un animal parmi les autres qui aurait juste eu un souffle de vie qui lui aurait donné une intelligence. Ça porte quand même une marque, si vous voulez. Quand on est ainsi dans l'économie originelle, qu'on sait que le péché des anges vient avant celui des hommes, il y a quelque chose là qui se donne. Alors, vous allez voir, ça va être cocasse, la question 92, sur la production de la femme. C'est le terme de la question 92. Une question qui est composée de 4 articles, donc de 4 questions. Eh bien, nous allons lire la première question. La production des choses, de toutes les choses, de toute la matière, devait-elle comporter la production de la femme? Alors ne le prenez pas, mesdames, contre vous. Il y a 4 objections, mais objections qu'il faut vraiment entendre. Aristote dit, alors déjà, Aristote dit, cela veut dire, Aristote n'est pas chrétien, il a vécu grosso modo 6 siècles avant la venue de notre Seigneur Jésus le Christ, mais Aristote est une autorité parce qu'il a réfléchi par sa raison. Donc du coup, saint Thomas en rend compte, surtout qu'au XIIIe siècle, c'est la grande redécouverte d'Aristote vis-à-vis de Platon, je n'entre pas dans les détails. Aristote dit, donc un païen, j'insiste, ça montre que déjà au XIIIe siècle, la phrase que je vais dire et qui pourrait faire friser les cheveux de ceux qui ne le seraient pas par nature, eh bien, va déjà être contrecarrée par saint Thomas. La femelle est un mâle manqué, produit par le hasard. C'est une objection, hein? Mais, déjà, auto-réponse, mais rien de manqué ni de défectueux ne devait se trouver dans la première institution des choses. C'est une objection. Après, on va répondre, hein? La production des choses devait-elle comporter la production de la femme? Deuxième objection, pour dire non, hein? Il ne fallait pas, parce que ce n'est pas parfait, du coup, c'est ce que laissait entendre le premier argument. Suggestion et abaissement sont des suites du péché, car c'est après le péché qu'il a été dit à la femme, Genèse 3, verset 16, « Tu seras sous le pouvoir de l'homme ». En tout cas, l'objection, prenons-la déjà dans ce cas-là de très juste, parce que là, avant, il n'a pas encore donné l'objection, il donne déjà un élément. La soumission de la femme à l'homme est une conséquence du péché. Ce n'est pas ainsi qu'ils ont été créés. C'est déjà très important de se rappeler là. Et Saint Grégoire dit que là où nous ne fautons pas, nous sommes égaux. L'égalité de l'homme et de la femme, elle est vraiment dans la révélation chrétienne des choses. Et je voudrais dire à tous les chiapas du monde qu'on est au XIIIe siècle. Non, mais c'est quand même... Non, mais parce que je veux dire, on vit dans un monde tellement fada sur ce sujet que... Hein, on lit Saint Thomas d'Aquin, on est au XIIIe siècle, à l'époque où en France, on crée l'université quand même, hein, du collège Pierre de Sorbonne, qui deviendra plus tard la Sorbonne. Passons. Enfin, passons. Mais, voilà l'objection qui arrive, c'est par nature que la femme est de moindre puissance et dignité que l'homme. En effet, dit Saint Augustin, toujours l'agent est plus honorable que le patient, donc la femme ne devait pas être produite avant le péché dans la première production des choses. Ils vont se batailler pour savoir pourquoi Dieu a créé la femme. Avant le péché, ça aurait été mieux après. L'objection 3 est absolument délicieuse. Troisième objection, il faut couper court aux occasions de péché. Donc sous-entendu, écoutez, franchement, si on voulait éviter le péché, il ne fallait pas créer la femme avant, parce que c'est l'objet de la tentation. Alors du coup, Seigneur, si vous n'aviez pas créé la femme, on n'aurait pas été tenté, l'humanité ne serait pas tombée dans le péché, et tout irait mieux dans le meilleur des mondes. Donc c'est le début, il faut couper court aux occasions de péché. Je raconte une histoire de la vie de saint Thomas, assez édifiante. Saint Thomas d'Aquin a rencontré les disciples de saint Dominique qui fondent cet ordre mendiant et intellectuel que seront les dominicains, et il ressent du coup l'appel sincère de sa vocation. Saint Thomas d'Aquin est originaire d'une famille, d'une forme d'aristocratie, mais attention, aristocratie au service de l'Empire, on pourrait dire aujourd'hui de Bruxelles. C'est des parallèles. Au sens où l'Empire, pour saint Thomas, dans toute sa théologie politique, il n'en parlera pas, en disant que ce n'est pas une réalité naturelle. La réalité naturelle, c'est la famille, c'est l'État, c'est la cité, c'est le royaume. Ça, c'est des réalités naturelles. Et après, quand on commence entre États à essayer de... C'est beaucoup plus difficile. La famille voit d'un très mauvais œil, non seulement que saint Thomas devienne religieux, mais surtout religieux pauvre mendiant. Parce que c'est ça, hein, le grand saint François et saint Dominique, c'est le... Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on dit ? Ben, on va envoyer une prostituée, hein, une fille de joie, comme on aurait pu dire plus gentiment, à saint Thomas, il sera défleuré, il aura connu vraiment ça, et puis du coup, il sortira de sa tête ce genre d'idée. Et quand saint Thomas nous donne juste dans cette petite phrase, il faut couper court aux occasions de péché, que s'est-il passé ? On lui met cette jeune fille dans sa chambre, etc. Avec le tison du feu rougi, il la chasse immédiatement. Donc, vous voyez, quand dans cette phrase, il nous dit « il faut couper court aux occasions de péché ben, », il n'a pas commencé à la reluquer, à se dire, vous voyez, comme David, qui se met à regarder cette jolie femme qui prend son bain nu dans la piscine, au lieu de se dire ben, « peut-être qu'il ne faudrait pas que je regarde ben, », il regarde, il utilise son autorité royale et elle arrive dans son lit. Et oh, un enfant est né. Ben, oui. Il n'y avait pas eu... Bon, passons. Donc, du coup, saint Thomas, dans cette objection, il faut couper court aux occasions de péché, mais Dieu savait à l'avance que la femme serait pour l'homme une occasion de péché. Eh oui, pour Dieu, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il y a une omniscience. Donc, Dieu savait à l'avance que la femme serait pour l'homme une occasion de péché. Par conséquent, il n'aurait pas dû produire la femme. Voilà les objections. Hein ? Saint Thomas n'est pas d'accord avec ça. C'est les objections qu'il entend autour de lui, hein, parce que tout intellectuel doit affronter les objections de ses adversaires. Et il n'en a pas peur. Non, parce que quand je vois aujourd'hui ce que sont les intellectuels à diaboliser, et alors que vous avez quelqu'un qui en face vous dit l'inverse, mais on ne peut même pas comprendre les nuances de la pensée, ben, ce n'est plus de la pensée, hein, c'est de la stupidité, de l'imbécilité. Donc une fois que saint Thomas a opposé ses objections, grand argument, en sens contraire, il est dit dans la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide qui lui soit assortie. Donc de toute façon, qu'on soit contre la production de la femme, ça ne change rien et ça montre que ce n'est pas chrétien, ce n'est pas dans la révélation, puisque de toute façon, Dieu a bien dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide qui lui soit assortie. Et j'ai eu l'occasion de développer, et je reprends ça, comment c'est arrivé à Adam cette idée ? Hein, il y a une mise en scène du désir d'Adam. Il est donné à Adam, le premier homme, de nommer tous les animaux. Et les animaux sont placés dans le jardin, ça ne plairait pas aux antispécistes, mais ils n'écoutent pas. Donc, il les a placés, mâles et femelles. Donc Adam, qui nomme les animaux, se rend compte qu'il y a mâles et femelles pour chaque espèce. Et il se retourne auprès du Créateur. Et moi, je n'ai pas trouvé une aide complémentaire comme ça qui me ressemble. Ce qui veut dire aussi que Dieu attend aussi d'Adam, ben, voilà, que son désir soit excité, qu'il se rende compte qu'il lui manque quelque chose. Mais moi, je n'ai pas, hein, mâle, femelle, je n'ai pas cette aide. Hein, et saint Thomas, on le verra, va bien dire, il ne demande pas un homme. Non, parce que ça ne marcherait pas, mais enfin, il ne demande pas un homme au sens du compagnonnage. Ce n'est pas une question pour travailler. Il aurait mieux valu qu'il demande un homme de même constitution si c'était pour travailler. Non, la solitude, l'homme, cette communauté de vie que l'homme est appelé à vivre avec la femme. Bon. Donc, en sens contraire, il est dit dans la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide qui lui soit assortie. Ça, c'est ce que Dieu répond quand Adam a manifesté l'absence de la femme. Vous voyez que dans les Saintes Écritures, on n'est pas en train de dire « la femme vient après parce qu'elle est inférieure ». Ce n'est pas du tout ce que vont dire les Écritures. C'est parfois ce qu'on a, ce qu'on véhicule d'un faux christianisme ou d'un christianisme scolaire bêta, mais ce n'est pas... On est au XIIIe siècle, c'est un livre de référence immense que la Somme de théologie de saint Thomas. Voilà, c'est vraiment la sève même de la révélation chrétienne là que nous touchons du doigt. C'est surtout que Adam s'est rendu compte qu'il lui manquait quelque chose dans sa solitude de son jardin. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide qui lui soit assortie. Réponse du coup de saint Thomas. Maintenant que saint Thomas, il répond lui-même. Respondeo, je réponds. C'est le maître qui répond. Il était nécessaire, je dis bien nécessaire, que la femme fût faite, comme dit l'Écriture, pour aider l'homme. Non pas pour l'aider dans son travail, sous-entendu, Dieu ne s'est pas dit, effectivement, pour faire la ménage, la vaisselle, il va peut-être falloir qu'on lui fasse une aide ménagère. Vous voyez, ce n'est pas la DMR avant l'heure. Non pas pour l'aider dans son travail, comme l'ont dit certains, donc vous voyez que c'est déjà des sujets qui tiraillent. Hein. Et c'est quelque part, la femelle est un mâle manqué produit par le hasard, hérité de Aristote et d'une société grecque qui est une société éminemment masculine. Les femmes sont dans le gynécée. Il y a une communauté des femmes, une communauté des hommes. C'est très, très, très séparé. Hein. D'où aussi la question d'une éventualité homosexuelle dans la Grèce antique, parce que ce sont deux sociétés qui, bon, ils cohabitent au moment où il faut cohabiter, mais qui sont très distinctes de ce point de vue-là. Donc là, déjà, saint Thomas, qui a une grande admiration pour l'œuvre d'Aristote et pour son acuité philosophique, là, c'est aussi, à la lumière de la révélation, dire ça, ça, c'est pas du tout possible. Donc, il était nécessaire que la femme fût faite, comme dit l'Écriture, pour aider l'homme. Non pas pour l'aider dans son travail, comme l'ont dit certains, puisque pour n'importe quel autre travail, l'homme pouvait être assisté plus convenablement par un autre homme. Mais Dieu, Adam n'a pas dit, mais donne-moi un autre compagnon, j'ai besoin d'aller défricher le jardin ou de faire je ne sais pas quels travaux, donne-moi un musclore, quoi. Enfin, non. Donc c'est bien de, ça faut bien dire que l'aide que demande, que va donner Dieu à Adam, c'est pas de cet ordre-là. Par un autre homme que par la femme. Réponse de Thomas. Mais pour l'aider dans l'œuvre de la génération, il était nécessaire que la femme fût faite pour l'aider dans l'œuvre de la génération. Génération, hein, de l'enfantement, hein, pour que croissez, multipliez-vous, ben, il faut être mâle et femelle, n'en déplaise. Alors là aussi, il y a tout un tas de lobbies, il y a tout le reste. Ah oui, heureusement que Dieu n'a pas fait deux hommes, parce qu'il n'y aurait pas eu grand monde après eux, ou deux femmes, c'est pareil. Mais ce fait partie des vérités premières qui aujourd'hui seraient politiquement incorrectes, ça vous montre qu'on est quand même devenu imbécile. Je lis la réponse de saint Thomas, parce qu'elle va nous permettre d'approfondir véritablement cette complémentarité de l'homme et de la femme en vue justement de cette génération. On peut voir cela avec plus de clarté en considérant le mode de génération chez les vivants. Donc la grande comparaison de saint Thomas va être de dire ce mode par génération, ben, on va le voir déjà manifesté dans la nature, parce que tout est appelé à se reproduire. Hein, les différentes catégories végétales doivent se reproduire, hein, l'arbre, etc. Donc, il y a en effet, nous dit saint Thomas, des vivants qui n'ont pas en eux de vertu génératrice active, mais qui sont engendrés par un agent d'une autre espèce, par exemple les plantes et les animaux qui sont engendrés sans semences, à partir d'une matière convenable par la vertu active des corps célestes. Alors, j'explique. Celle-là, c'est vraiment une exception. Saint Thomas commence là par cette exception. Il peut y avoir des plantes qui n'ont pas en elles-mêmes la possibilité de se reproduire, qui sont aidées par d'autres. Je prends juste un exemple, parce que c'est le seul qui m'est venu, je réfléchis encore. Vous plantez dans votre jardin des potirons. Ben, il y a fleurs mâles et il y a fleurs femelles. Ce n'est pas l'exemple exactement de ce que veut dire saint Thomas. Mais vous avez besoin du truchement de l'abeille qui, en venant s'en mettre plein les poches dans la feuille mâle et en venant s'en mettre plein les poches dans la feuille femelle, participe à la fécondation et là, vous aurez la petite citrouille. Il ne le dit pas ça parce qu'il y a des... je n'ai pas l'exemple, je n'ai pas étudié assez la biologie pour savoir vraiment... Mais il y a des animaux comme ça, ni homme ni femme, vous remarquez les antispécistes, ils vont vous en vendre bientôt. Bref, seconde catégorie, donc c'est plus exceptionnel celle-ci. D'autres ont une vertu génératrice active et une vertu passive. Active au sens de, il va falloir féconder, et il va falloir recevoir la semence et porter cela. Réunis en un seul être, telles sont les plantes qui sont engendrées à partir d'une semence. La plupart des plantes n'ont pas, on n'a pas un géranium mâle et un géranium femelle qui vont nous permettre de faire un autre petit géranium, des petits géraniums. Ils ont en eux-mêmes, cette double, comme il dit, cette vertu génératrice à la fois active et passive. Ça va être la semence qui va retomber en terre et qui va porter du fruit. Car il n'y a pas dans les plantes d'activité vitale plus noble que la génération. Ça, c'est aussi très important. La génération fait partie de la noblesse accordée aux créatures. Dieu est le créateur, mais ensuite, voilà aussi la dignité, c'est justement de se transmettre la vie que l'on a reçue par votre génération. Se transmettre la vie quand on est une plante, il n'y a pas le même niveau de conscience que si c'est l'homme. Et sous ce point de vue, nous sommes supérieurs aux anges. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé immédiatement tous les anges. Chaque ange a sa propre nature. Donc tous les anges ont été créés directement par Dieu. En revanche, l'homme, il vient de l'homme, puisque c'est l'homme au sens on est femme, qui vont enfanter comme Dieu vient de Dieu, puisque le Père engendre le Fils. Donc vous voyez, sous ce rapport, il y a vraiment une grande noblesse de pouvoir donner la vie. Et de donner la vie sous ces deux pôles, mâle et femelle, qui nous vont être distingués, justement. Et saint Thomas va essayer de rendre compte de pourquoi c'est distingué. Mais justement parce que c'est plus noble. Donc, il n'y a pas... Pardon, je reprends. Mais chez les animaux parfaits, la vertu génératrice active et la vertu passive se trouvent distribuées entre le sexe masculin et le sexe féminin. Et parce qu'il y a chez ces animaux une activité finale plus noble que la génération, activité à laquelle toute leur vie est ordonnée comme à l'œuvre principale, il s'ensuit que chez eux, le sexe masculin n'est pas toujours uni au sexe féminin, mais seulement au temps du commerce charnel. Qu'est-ce qu'il dit ? Ben oui, ils ont autre chose à faire, les animaux, ils ne vivent pas en couple. Il y a une saison des amours, une saison de la reproduction, et tous... Il y a des animaux, ça saint Thomas ne le sait pas encore parce qu'ils veulent donner comme exemple. Quand j'ai été là visiter le Amadiran, tous les aigles, les hiboux, etc., je ne me rappelle pas le nom, mais il y a une catégorie d'aigles qui a trouvé sa compagne, ou l'inverse, et ils ne feront des enfants qu'avec eux. Et pareil chez les hiboux, il y a une sorte de fidélité, ils n'iront pas chercher constamment. C'est pas, voyez, les cerfs qui vont faire un combat d'hommes forts et virils pour savoir qui fécondera la femelle pour. Voilà. Donc là, saint Thomas dit, donc, déjà chez les animaux, il y a bien ce pôle mâle-femelle, mais les animaux, ce n'est pas leur simple but de former une communauté de vie. Ils ont autre chose à faire. Enfin, ils doivent éviter le chasseur, ils doivent participer à cette vie, cette profusion, mais ça fait partie de leur noblesse. Mais l'homme, ça va être autre chose, parce que l'homme, il va fonder une communauté de vie. Nous pouvons donc nous représenter les choses comme si le commerce charnel réalisé entre le mâle et la femelle, la même unité que celle qui existe en tout temps dans la plante, entre la vertu masculine et la vertu féminine, pour bien montrer qu'on est complet, hommes et femmes, il les créa. C'est l'idée d'être complet. Il dit, on est aussi uni que la plante qui a en elle-même la vertu active et la vertu passive pour la génération. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et qu'est-ce que va dire le Créateur en suivant ? L'homme quittera son père et sa mère et tous deux ne feront plus qu'un. C'est bien cette idée qu'il y a cette complémentarité qui est vue là. L'homme lui est ordonné à une activité vitale encore plus noble, puisque Dieu n'est pas simplement fait pour être un homme, il est fait pour la connaissance intellectuelle, c'est pourquoi à l'égard de l'homme, il y avait une raison plus forte encore de distinguer ces deux vertus et de produire la femme à part de l'homme, tout en les unissant charnellement pour l'œuvre de génération. Et c'est pourquoi, aussitôt après avoir raconté la formation de la femme, la Genèse ajoute, ils seront deux dans une seule chair. Vous voyez que déjà dans la création de l'homme et de la femme, eh bien, c'est déjà cette communauté de vie, hein, de la famille, hein, qui est en jeu. Je ne vais pas lire là toutes les objections de saint Thomas, vous pourrez les lire, c'est pas inintéressant, surtout le pauvre saint Thomas qui patine à la solution 1 pour essayer de défendre aussi ce que dit Aristote, c'est, il faut aussi défendre les autorités, essayer de comprendre. Je dis juste un petit passage. « Rattachée à la nature universelle, la femme n'est pas un être manqué, nous dit saint Thomas, par l'intention de la nature. Dieu a voulu la femme pour la femme, comme il a voulu l'homme de sexe masculin pour l'homme masculin. » Donc, elle ne peut pas être inférieure, etc. Homme et femme, il les créa. Ce n'est pas l'homme qui est à l'image de Dieu. Ce n'est pas la femme qui est à l'image de Dieu. Homme et femme sont à l'image de Dieu. Et dans quelques instants, on va voir comment saint Thomas d'Aquin, nous permet d'arriver à une autre vision, justement, des choses. Deuxième question, et puis on va s'arrêter là dans quelques instants. La femme devait-elle être faite à partir de l'homme ? Je lis les objections, mais il semble que non. Car la sexualité est commune à l'homme et aux autres animaux, mais chez les autres animaux, les femelles n'ont pas été faites à partir des mâles. Donc cela n'aurait pas dû se faire chez l'homme. Mais oui, on aurait dû avoir une création immédiate de Dieu pour la femme. Or là, il va d'abord créer l'homme, et puis il va prendre l'homme, et surtout la côte. Donc là, l'objection est en train de dire, c'est quand même pas très noble comme affaire. Deuxième objection, les êtres de même espèce, ben, ils ont la même matière. Mais l'homme et la femme sont de la même espèce. Donc puisque l'homme a été fait du limon de la terre, c'est à partir de là que la femme aussi aurait dû être faite, non pas à partir de l'homme. C'est juste pour savoir... Oui, parce que ça a beaucoup embêté. J'avais pas réalisé cette différence. Je disais toujours, Dieu nous a créés à partir de rien, ex nihilo. Mais c'est vrai, pas la création de l'homme et de la femme. Hein, le limon et la côte. Troisièmement, la femme a été faite pour aider l'homme en vue de la génération. Mais une trop grande proximité rend une personne inapte à cela. Aussi exclut-on du mariage les personnes proches, comme on voit au Lévitique. Là, c'est la question de l'inceste qui est à l'origine de toutes les civilisations, hein, en disant ben, la prohibition de l'inceste, c'est comme la loi pérenne. Hein, ce n'est pas la mère qui va coucher avec ses enfants pour faire des enfants. Enfin, il y a le mythe d'Œdipe et le... Bon. Donc la femme n'aurait pas dû être faite à partir de l'homme pour dire ben, « Attendez, là, c'est trop ressemblant. » Saint Thomas répondra « Attention, on n'a jamais dit que Ève était la fille d'Adam. » Oui, mais c'est important parce que vous voyez, le Lévitique dit bien, hein, il est interdit de se marier avec sa mère, avec sa sœur, avec son... Bon. En sens contraire, il est dit dans l'Ecclésiastique, il a été créé à partir de lui, l'homme, une aide pour lui, la femme, pour bien manifester qu'il y a ça. Il convenait, réponse de saint Thomas, que la femme, dans la première institution des choses, fut formée à partir de l'homme, et cela beaucoup plus que chez les autres animaux. Je lis, là, saint Thomas va donner quatre arguments. Je vais lire le premier, développer le premier, et nous arrêterons là. Ainsi serait accordée au premier homme cette dignité d'être, à la ressemblance de Dieu, le principe de toute son espèce, comme Dieu est le principe de tout l'univers. Ce qui fait dire à saint Paul que Dieu, d'un être unique, fit tout le genre humain. Qu'est-ce que nous dit saint Thomas ? Ça paraît plus compliqué, mais vous allez voir que c'est une merveille de... ciselure et de contemplation. Il ne faut pas penser que la femme a été créée après l'homme comme une imperfection, parce que saint Thomas nous dit que ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Quand on regarde Adam, il n'est pas à la tête du genre humain, parce que celui qui est à la tête du genre humain, c'est Dieu qui est à l'origine de l'homme. Et c'est pourquoi on dira que le Christ, lui, par contre, est à la tête du genre humain, comme dans son incarnation. Mais on ne le dit pas d'Adam. Adam, c'est le premier. C'est ça que saint Thomas nous dit. C'est le premier homme. Et en tant que premier homme, il a cette dignité d'être à la ressemblance de Dieu, le principe de toute son espèce. Ce n'est pas que Ève, la femme, a été créée après comme quelque chose qui manquerait. Non, ce qui est premier, c'est d'abord de voir qu'en Adam, c'est tout le genre humain qui est présent en puissance. Je vous le dis déjà depuis longtemps. Pour saint Thomas d'Aquin, Adam et Ève, ce n'est pas deux individus. C'est le fondement de toute la société. Hein. De tout le genre humain sont déjà contenus en Adam et Ève. Mais là, encore plus en Adam. J'approfondis même davantage. Avant que Ève ne soit séparée d'Adam, puisqu'elle provient de son côté, ça veut dire que quand on se représente Adam face à Dieu, Adam est autant mâle que femelle. Puisqu'on va sortir du côté d'Adam quelque chose pour faire la femme. Ça veut dire que Adam, c'est d'abord le principe de cette humanité qui est et qui se reçoit de Dieu. On vient de Dieu, on retourne à Dieu. C'est la grande dignité d'Adam. Je relis le passage. « Ainsi serait accordée au premier homme cette dignité d'être à la ressemblance de Dieu, le principe de toute son espèce, comme Dieu est le principe de tout l'univers. » Dieu a tout créé à partir de rien. Il est le principe de tout l'univers. Mais voilà que quand on considère Adam, Adam est le principe. Le mot « principe » a donné le mot « prince ». Parce que le prince est celui qui est au principe de son peuple. Donc voilà, le vrai prince, là, c'est vraiment Adam. Je fais quand même le deuxième argument. Parce que là, c'est vraiment la vision, si vous voulez, métaphysique de la chose. Donc c'est pas pour nous, parce que nous, mais on hérite de tout ça. On se dit, mais la femme est bien après, donc c'est moins bien, c'est moins pas. C'est pas du tout ce qu'a en vue la Genèse, ni Dieu quand il crée. Si Adam est créé en premier, d'abord on voit s'il va tirer la femme, c'est qu'elle est déjà mystérieusement contenue en Adam, tout comme est contenue toute la vie sociale. Et saint Thomas ira jusqu'au quatrième point en nous disant, c'est même la vision de l'Église qui est prévue en Adam, de la fin surnaturelle, parce qu'Adam n'est pas fait que pour ça. Deuxième argument, afin que l'homme chérit davantage la femme et qu'elle s'attachât à elle de façon plus inséparable, sachant qu'elle avait été produite de lui, aussi l'est-il dit dans la Genèse, elle fut tirée de l'homme, c'est pourquoi. Elle quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous voyez, dans cette idée de venir après la femme, ce n'est pas l'idée de dire ça vient en second, les femmes dans l'Église sont soumises, il n'y a pas d'égalité, voilà, tout ce genre de choses qu'on ferait mieux d'appliquer à d'autres qu'à nous. Eh bien là, c'est de dire, elle fut tirée de l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est l'ordre des choses qui est mis en place. Il y a d'abord cet homme complet, plein, Adam, principe de l'humanité, on sort la part féminine, homme et femme, il est créa. Et bien pour dire, pourquoi il y a ça? Parce que d'abord, Adam, je vous ai dit, il a senti le désir de sa solitude en disant, mais je suis seul, je n'ai pas l'aide qui me convient, il me manque quelque chose déjà dans son ressenti. Et c'est la femme, ce n'est pas sa sœur, c'est son épouse, la mère des vivants. C'est bien cette idée de la génération qu'il y a derrière. Et donc là, de dire, afin que l'homme chérit davantage la femme, et s'attacha à elle de façon plus inséparable. Je ferai quand même remarquer que le XIIIe siècle, c'est la mise en place avec la chevalerie de l'amour courtois. On n'est pas en train de dire la femme est inférieure à l'homme, elle vaut rien. Au contraire. Pourquoi la femme ne fait pas la guerre? Alors certains diront, elles sont plus faibles, elles sont plus... Non, parce qu'on aime nos femmes, on aime nos mères. Et que c'est en tant qu'homme qu'on va aller se battre pour protéger, les protéger. Aussi parce qu'elles sont une forme de sanctuaire de la vie. Il y a tout ça. C'est vraiment l'époque de l'amour courtois qui n'est pas l'amour charnel. C'est tout cet amour un peu mystique, le cantique des cantiques, de cet amour platonique entre les chevaliers et la dame. C'est à partir de cette époque-là que la Vierge Marie, on va l'appeler Notre-Dame. Ah, c'est la dame idéale. Cette dame qu'on va courtiser. Mais pas... vous voyez le reste. Et oui, mais c'est très important de se dire, on est ici au XIIIe siècle, une forme d'âge d'or pour l'Église, bien que ceux qui conspuent toujours, on va appeler ça la période obscurantiste, enfin je ne sais pas si vous avez vu la moindre part d'obscurantisme dans les raisonnements de saint Thomas au XIIIe siècle. Alors j'arrête là, bien que nous reprendrons là la semaine prochaine, tout cet émerveillement de la création de l'homme et de la femme.